Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International, bien sûr, en cette fin d'après-midi très automnale sur Paris. Pour évoquer aujourd'hui donc l'OM en son stade pour rattraper son retour raté en Ligue des Champions, mais dans un vélodrome qui sonnera creux. Les hommes de Villas-Boas pourront-ils battre Manchester City? Des citizens moins flamboyants en première ligue que d'habitude, mais il faudrait que l'OM fasse aussi bien que l'OL. Est-ce possible? Est-ce possible, Marc Libra? Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Bien sûr que c'est possible. La bonne mère veille sur les Marseillais.
Ah, alors tout va bien, elle veille aussi sur Christophe Jousset, qui est déjà à Marseille pour nous et qu'on retrouvera dans quelques secondes. Le Real Madrid, lui aussi condamné à gagner pour sauver sa phase de poule et surtout son entraîneur. Le club des Merengues ira en Allemagne, opposé à Mönchengladbach. L'affiche prometteuse de spectacle entre deux équipes jouant du football offensif, ce sera sur une autre chaîne, ce sera Atalanta-Bergame et Ajax-Amsterdam. Le Paris Saint-Germain en terrain miné. Le PSG jouera demain soir à Istanbul à une heure où se joue une autre confrontation, celle-ci diplomatique entre les dirigeants français et turcs. Que peuvent craindre les joueurs? Et puis nous évoquerons la colère froide de Paul Pogba qui dément les rumeurs le concernant et portera plainte car il veut continuer à jouer avec les Bleus, n'est-ce pas Bruno Constant, bonjour.
Oh oui, bonjour, bonjour Annie, bonjour à tous. Oh là là, oui.
Que nous dit la presse anglaise? Nous y reviendrons avec vous. Et puis Naïm Moniol. Bonjour Naïm.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors Naïm, il fait un marathon sur RFI. Vous le retrouverez dans l'émission. Ensuite, le multiplex de cette soirée. Merci. Ligue des Champions à Radio Foot. Préparé avec l'aide de David Finzel et Laurent Salerno à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
On vient d'une bonne victoire contre Bordeaux. Contre Olympiakos, comme on a fait un match moyen, on a raté une chance de gagner, peut-être à l'équipe qu'on doit gagner tous les deux matchs. Et là, on est à faute et c'est ma responsabilité.
La petite musique européenne résonnera à nouveau dans l'enceinte du stade Vélodrome de Marseille ce soir. La dernière fois, c'était pour le dernier match donc de phase de poule le 11 décembre 2013. Match perdu contre Dortmund, comme tous les autres d'ailleurs cette année-là, l'année où l'OM n'avait marqué aucun point. Zéro point. Mais ce soir, la petite musique sonnera creux, malheureusement. Les tribunes seront vides, la confrontation à huis clos, à cause toujours de ce maudit virus, et les fans de l'OM sont résignés.
C'est frustrant, il y a une frustration. Je les suivrai à la vie et à la mort. Maintenant, c'est sûr que t'aurais été mieux si elle est cueillie, on est au stade, et fumigène, on fout le feu.
On va essayer de les accueillir, hein. J'espère qu'on prendra pas une valise. Voilà, derrière, c'est bien. Il y aura le feu un peu partout.
Ça fait rire Marc Libra au moins, hein. L'ambiance est là, dans les têtes.
Toujours, non mais toujours, les Marseillais y croient, ils ont raison.
Ils vont les escorter en tout cas jusqu'au
comme
stade,
souvent, ouais.
Histoire, voilà, exactement. Surtout.
Et c'est assez impressionnant,
en ces temps de pandémie.
Ils les récupèrent à l'hôtel, en moto, en scooter, donc ça c'est très dangereux, mais voilà, ils les escortent jusqu'à l'entrée du stade.
Ça les met en condition?
Ça peut les mettre en condition, dommage qu'ils ne soient pas à l'intérieur.
Eh oui. Alors Christophe Jousset, lui aussi, est en condition. Il est à Marseille. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Annie et bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir Christophe.
La Provence, le quotidien de Marseille, titre en grosses lettres sur ce match de ce soir, même si on ne sent pas, j'imagine, Christophe, la ferveur ni la chaleur des grands soirs du côté de Marseille. Bon, il fait un peu plus chaud qu'à Paris, 16 degrés, mais quand même.
Oui, c'est vrai que le contexte est un peu compliqué à cause de ce que vous savez, à cause du Covid, hein, parce que 21h c'est l'heure du coup d'envoi du match, mais c'est aussi le début du couvre-feu à Marseille, ça pèse évidemment sur la vie des Marseillais ces derniers temps. L'équipe est moyenne actuellement, même si en Ligue 1 ça va. La défaite de la semaine dernière pour lancer la Ligue des Champions a un petit peu rafraîchi les enthousiastes. En tout cas, le ciel est clair et de la chambre d'hôtel où je vous parle, j'ai vu direct sur Notre-Dame de la Garde. Donc c'est peut-être un signe.
Ah ben, Marc en parlait.
le Vénard.
On vous imagine donc, Christophe. Alors Christophe, ce match, l'OM se mesurant à Manchester City, dans les rangs Citizen, un supporter, ou plutôt un fils de supporter de l'OM, Riyad Mahrez, hier soir en visioconférence, et vous l'avez suivi.
J'ai toujours dit que quand j'étais jeune, ouais, je supportais Marseille par rapport à mon père et tout ça. Mais je vais juste jouer mon match, je suis avec Manchester City et je vais tout faire pour qu'on gagne demain. Pour vous dire la vérité, j'ai même pas bien regardé Marseille, donc ça va être compliqué de donner une opinion. Mais perdre la première journée, ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'ils sont pas au niveau. Je pense que ça fait partie du processus. Voilà, ils ont perdu le premier match, maintenant ils essaient d'avancer, ils vont essayer de grappiller des points et de faire le meilleur parcours possible. Mais c'est comme nous, pareil, voilà, on va essayer de faire notre mieux pour passer les poules et aller le plus loin possible.
Christophe Jousset, un admirateur de Marseille, la semaine dernière, il y en avait un aussi, un ou deux dans les rues d'en face à l'Olympiakos.
Oui, vous pensez à qui? Vous pensez à Pierre Issa, par exemple?
Ouais. Ou à certains Mathieu Valbuena qui disait qu'il avait ce club dans le cœur.
Ouais, c'est vrai. Bon, il a pas été très populaire après ses déclarations, Mathieu Valbuena, puisque vous parlez de lui. Il avait un peu remis en cause suite au match la solidarité dans le camp d'en face. Il avait dit qu'il n'avait pas senti d'âme dans l'équipe de l'Olympique de Marseille. Bon, c'est un sujet de débat. En tout cas, Villas-Boas l'a renvoyé dans ses 22 en disant qu'il attendait mieux comme remarque de la part d'un joueur de son expérience et d'après l'entraîneur portugais de l'OM, c'est pas là qu'est le problème pour l'OM, même si Villas-Boas concède que l'équipe actuellement est encore à la recherche de son équilibre en ce début de saison.
Oui, on va l'écouter justement, l'entraîneur de l'OM, le portugais, qui ne veut pas seulement s'appuyer sur les absences adverses lorsqu'il envisage l'adversaire du soir qu'est Manchester City.
Évidemment, tu peux rester déjà un peu plus tranquille quand tu regardes Agüero, Gabriel Jesus, Mendy qui sont hors, mais après tu vois tous les autres, Cancelo, Torres qui vient d'arriver de Valencia, tu vois Foden qui est entré l'autre jour contre West Ham, il a changé le jeu aussi. Ils ont une profondeur d'effectif qui le permettent, bon, passer aussi des moments comme ça. C'est pour ça qu'ils ont tellement investi pendant les années que c'est une machine qui est prête pour gagner la Ligue des Champions et qui n'est pas à son meilleur niveau. Son coach l'a dit aussi, mais c'est évident, ils sont les favoris pour le match.
Marc Lébrun, on s'en souvient, l'autre jour, Marseille avait renversé Paris au Parc des Princes et c'était la première fois depuis bien longtemps que Marseille réussissait à gagner un classico à la française. Là, il s'agit peut-être pour première mission de Villas-Boas et de ses hommes de stopper une hémorragie, enrayer une spirale surtout et entraîner l'OM sur la scène européenne parce que le match la semaine dernière perdu à l'Olympiakos, c'était la 10e défaite consécutive en 10 matchs. En Ligue des Champions pour Marseille. Est-ce que pour vous, tout cela est possible ce soir?
Tout est possible maintenant si on se réfère à ce qu'on peut voir depuis le début de saison. Alors c'est vrai que ça n'a pas forcément un grand Manchester City en ce début de saison.
Et
les individualités sont quand même assez importantes. Au niveau de Marseille, qu'est-ce qu'il fait à Paris? C'est qu'il met presque deux lignes, il démarre sans attaquant, il fait le choix après, à l'heure de jeu, de faire entrer Benedetto, ça a failli marcher, mais ce soir-là, j'ai envie de vous dire que tout s'est bien déroulé. Toutes les planètes étaient alignées ce soir-là pour Marseille. Ça s'est bien passé. On n'a pas vu un grand match. Ils ont simplement défendu avec beaucoup de cœur, d'abnégation, comme ils sont capables de le faire. Maintenant, est-ce que ce soir, ça peut se passer? Ils sont capables de faire quelque chose. Mais il faudrait quoi? Il faudrait qu'on ait un Real Madrid qui démarre face au Shakhtar, qui pendant 50 minutes ne joue pas et les prend. Je les vois pas. Je vois pas aujourd'hui City les prendre à la légère et Marseille doit montrer autre chose. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un match à Lorient où ils sont capables de gagner. Et encore, il y a une erreur du gardien. Alors il y a du cœur, mais au niveau du jeu, on attend toujours du jeu et c'est très compliqué. Et Villas-Boas nous dit il cherche toujours, mais il faut qu'il se dépêche de trouver parce qu'il a fait 7 voire 8 mois de championnat, ça s'est arrêté. Il est qualifié grâce à l'arrêt de Ligue des Champions. OK, c'est bon, c'est avéré, mais maintenant il faut trouver autre chose, faut faire un peu de jeu parce que son ossature elle est quand même là, ces joueurs là, il les a et nous dit ah, non mais je cherche encore.
Naïm.
Donc attention de pas trop chercher ce soir.
Ouais. Ce qui s'est passé contre Paris, parce que c'est vrai que le jeu est mauvais, c'est que Marseille avait de l'état d'esprit, ce qu'on n'a pas vu contre Olympiakos, parce que dans le jeu, à la rigueur, que Marseille n'ait pas été bon contre Olympiakos, donnez-moi un match où Marseille a été bon dans le jeu. Il n'y en a quasiment pas. C'est une équipe, le milieu de terrain perd tous les ballons, les attaquants ne marquent pas de but ou très peu. C'est une équipe qui joue mal au foot. Mais Marseille a quand même, depuis plusieurs saisons, Un état d'esprit redoutable, un cœur incroyable qui lui a permis de gagner des matchs qu'il ne devait pas gagner, de tenir des scores qu'il ne devait pas tenir. Et ça, on ne l'a pas vu contre l'Olympiakos. Donc, je ne vais pas vous dire que ce soir, face à Manchester City, ils vont faire un match incroyable, ils vont tout renverser, ils vont faire ce que le Shakhtar a fait contre le Real. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'ils jouent comme ils ont joué contre l'Olympiakos, sans envie, chacun dans son coin, en attendant que ça se termine, ils vont en prendre 10. Donc, ce qu'ils ont de mieux
une
à faire...
Une valise, comme disait un des supporters.
Ils vont en prendre une, c'est sûr. Donc, qu'ils aient de l'état d'esprit, qu'ils aient de la solidarité, qu'ils essayent de faire ce qu'ils ont fait contre Paris, ce qu'ils ont fait dans d'autres matchs, d'être solidaires, de tenir un score, de faire le dos rond, d'essayer, avec les joueurs à disposition, parce que c'est un peu flou sur le 11 de départ, de mettre un compte, de tenter un coup sur un coup de pied arrêté, mais surtout d'être solidaires, d'avoir un état d'esprit. Sans ça, ça ne passera pas, c'est certain.
Christophe, est-ce que selon vous, l'état d'esprit est là, nos amis de l'équipe mettent en une aujourd'hui, esprit olympique, es-tu là? Est-ce que vous, qui avez assisté à ces conférences hier, vous avez senti cela?
Alors vous savez, les conférences de presse sont quand même assez particulières en ce moment. D'abord, on est à distance, c'est de la visio conférence, donc ça change quand même pas mal la perception. Hier, on a eu André Villas-Boas et Doye Tatsar qui n'a pas dit grand chose. Donc c'est compliqué de se faire une idée de l'esprit. Moi, j'ai envie de vous dire, je vois pas comment, pourquoi l'OM ne serait pas présent mentalement ce soir pour un match de Ligue des Champions contre une équipe de ce calibre-là. C'est quand même un match magnifique à jouer et je pense, je suis persuadé qu'ils vont être présents. Après, évidemment, sur le papier, la différence est grande entre cette équipe de Manchester City qui a une expérience phénoménale en matière de Ligue des Champions. La Provence, le quotidien marseillais, rappelle dans un coin de page ce matin que pendant que l'OM était absent pendant 7 ans de la Ligue des Champions, eh bien City sortait systématiquement pendant ces 7 saisons des poules pour même atteindre une demi-finale de Ligue des Champions en 2016. Donc sur le papier, effectivement, la différence est grande et on ne parle même pas du nombre de matchs joués, et c'est la conséquence logique du nombre de matchs joués par chaque individualité en Ligue des Champions. La différence est abyssale entre les deux camps. Mais Lyon n'était pas censé aller gagner à City non plus à l'Etihad Stadium en 2018 en ouverture de la Ligue des Champions.
Bruno, Constant, avant qu'on parle du moment un peu particulier que vit Manchester City actuellement, est-ce que vous voyez que cet OM peut avoir un peu de l'OL pour l'emporter ce soir au Stade Vélodrome?
Bah oui, je vois pas pourquoi.
L'emporter
Il n'y a pas une énorme différence entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille en termes de
T'es
niveau
sûr?
Non, je trouve qu'il y a pas.
On n'est pas d'accord alors.
Non, on n'est pas d'accord. Mais non, il n'y a pas une énorme différence de niveau. C'est deux équipes qui aiment pas avoir le jeu, qui aiment pas avoir la possession et qui sont meilleures quand elles défendent et quand elles ressortent rapidement le ballon pour se projeter vers l'avant. L'OM, quand ils doivent faire le jeu, ils sont en grande difficulté et quand ils sont, notamment le match du PSG, qui est un bon exemple, quand ils devaient défendre bas, réduire les espaces, ils ont été très bons.
Mais chez eux, au Vélodrome, ils peuvent faire ça.
De toute façon, chez eux, au Parc des Princes sans public ou au Vélodrome sans public, pour moi, c'est à peu près la même chose. On le voit d'ailleurs dans les différents championnats à huis clos. Maintenant, le pourcentage de victoires à l'extérieur, il a augmenté, il a explosé. Donc, c'est sûr que c'est un avantage en moins pour l'OM. Ça, c'est évident. Mais de toute façon, l'OM va délaisser la possession à Manchester City. C'est évident aussi. Donc, ils vont jouer comme si c'était à l'extérieur, bien défendre, réduire les espaces, parce que City n'aime pas jouer face à des blocs compacts bas. Après, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes qualités que l'Olympique Lyonnais offensivement, parce qu'ils n'ont pas cette vitesse et cette puissance athlétique qu'avait Lyon avec Toko Ekambi, avec Maxwell Cornet, qui se projette très vite vers l'avant. Avec Fekir sur le match de poule à l'Etihad. Donc c'est ce qui va peut-être manquer à l'OM. Ils n'ont pas assez de vitesse.
Des joueurs comme Aouar et comme Depay individuellement, Marseille ne les a pas. Et me dites surtout pas Dimitri Payet, les gars.
Je parle pas. Oui, mais là c'est même pas de la qualité. Là, c'est de la puissance et de la vitesse. Ce qui fait mal. Ce qui fait mal à Manchester City, c'est surtout la vitesse et la puissance. Oui, c'est partir dans le dos des défenseurs. Et j'ai pas l'impression que l'OM et ces joueurs-là.
Le problème, ne nous trompons pas sur la lecture de la victoire contre Paris. C'est une victoire méritée. Paris a fait n'importe quoi. Marseille a très bien joué le coup. Rappelez-vous du match. Vous avez combien d'arrêts décisifs de Mandanda? 4, 5,
ah non,
des arrêts.
Moi, je veux pas qu'on en fasse une référence. Hein. Non, c'est simplement dans l'état d'esprit qu'on avait eu. Dans le jeu, je suis d'accord.
Il faut réduire les espaces. Vont le faire naturellement. Parce que sinon, ils ont pas les joueurs pour avoir le ballon. Mais n'oublions pas que ce que Mandanda a fait contre Paris, je lui souhaite de tout cœur de le refaire tous les week-ends. Je suis pas sûr qu'ils soient en mesure de le refaire autant. Et qu'à un moment donné, être sollicité, laisser le ballon, essayer de réduire les espaces, défendre comme on peut, ça va 5 minutes. Et le problème, c'est que Marseille n'a pas les joueurs pour jouer au ballon. C'est que vous prenez le match de l'Olympiakos, On va pas comparer le niveau de l'Olympiakos et Manchester City. Mais si vous prenez Benedetto, il court pas, il se cache, il demande pas le ballon, et en plus, il amène pas de profondeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des joueurs au milieu qui peuvent avoir le ballon, qui peuvent se faire des passes. Si vous avez personne qui fait un appel, Marc, il peut le dire, il a été attaquant. Si vous avez pas un mec qui fait un appel, pas un mec qui fait un décalage, le ballon, vous le perdez, vous aurez jamais une occasion. Et regardez le jeu de Marseille, c'est exactement ça. Alors défendre, serrer, réduire les espaces, c'est bien. Compter sur Mandanda une fois de plus, c'est très bien. Mais à terme, ça peut pas être une solution tout le temps.
Marc, vous défendez plutôt en plus Benedetto, vous?
Je le défends parce que la plupart du temps, où Jordan Naïm, c'est qu'au milieu de terrain marseillais.
On l'oublie.
Non, on l'oublie, ça ne joue pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est le rapport de passe décisive des milieux de terrain marseillais? Alors oui, ça défend, mais c'est très très bas. Ouais. Et Benedetto, une fois, deux fois, trois fois, il va faire les épaules, et il va faire les appels, et on le voit pas, on l'oublie. Alors après, tu vois, là, où Tiedio, tu dis, il se cache. Justement, je pense qu'il se cache pas, parce qu'il court énormément.
Mais
l'Olympiakos, pourquoi? Et là, il a une seule occasion où il fait un appel, on va lui mettre dans le trou, et la plupart du temps, les milieux de terrain marseillais.
Il a une occasion, hein. Il a une occasion, l'Olympiakos.
Mais il est fautif, il a l'occasion.
S'il est servi, mais il sait faire des appels.
Le milieu de terrain, on voit Ligue des Champions, ce qu'il peut faire avec les siens, c'est ton milieu de terrain. Aujourd'hui, ton milieu, une fois c'est rangé, ben là, Sanson, il joue plus, il est sur le banc. Qu'est-ce qu'on fait? On met le petit Gay. Ben d'un coup, que moi j'aime bien, on met Gaël comme ça. Non mais vous êtes fous quoi. On parle de Ligue des Champions et du jour au lendemain on fait ça. Donc il n'y a pas de structure, ça part dans tous les sens. Tant qu'ils n'auront pas une ossature et des patrons dans chaque ligne, ce qu'ils n'ont pas. Mandanda, ça fait depuis un an et demi, c'est le meilleur joueur.
Et à ma vie,
c'est le meilleur joueur aujourd'hui avec lui. Donc c'est quand même très inquiétant.
Christophe, il y aura d'ailleurs, sur la composition de départ, il y a beaucoup d'informations, de rumeurs, mais on disait que Benedetto et même Payet seraient sur le banc au départ.
Alors là, c'est comme on dit, la bouteille à l'encre.
Oui, je sais bien.
Ça paraît clair pour la ligne défensive, la ligne de 4. Après, Camara devant, Rongier, Pape Gueye, ok. A priori, maintenant, effectivement, Dario Benedetto, c'est difficile d'en parler comme si on était sûr qu'il allait jouer. Il a marqué aucun but sur les 9 derniers matchs, donc ça commence à faire beaucoup. Il est totalement en panne de confiance, il ne pèse pas sur les défenses adverses. Je vois pas comment. Là, vous me dites ni Benedetto ni Payet. Non, ça paraît beaucoup quand même.
Ouais,
aussi,
non, mais c'est ce que disaient nos confrères de l'équipe notamment. Mais après, effectivement.
Ouais. Non, pourquoi pas Benedetto sur le banc, même si hier Villas-Boas a dit bon bah ça arrive. Il a traversé déjà ce genre de période quand il était à Boca. Mais c'est mon rôle de l'aider à enclencher, à débloquer son compteur et le reste viendra.
Mm-hmm. Marc.
Aujourd'hui, la situation de Villas-Boas, il s'est mis tout seul dans l'embarras, tout seul, parce que c'est lui qui annonce qu'il veut pas de Germain, qu'il veut pas de Mitroglou. Mais à un moment donné, essaye de réfléchir, parce que tu vas les garder. Donc quand on dit ça, ok, il y a Benedetto. Après, c'est le jeune Hacke qu'on peut pas mettre, puisqu'on lui a mis Luis Enrique qui est arrivé, 18 ans. On l'a mis en concurrence directe avec un jeune en disant, ah mais c'est la star. Non, c'est pas la star, il a 18 ans, il vient d'arriver du Brésil, il a joué 7 matchs. Donc, Villas-Boas aujourd'hui, et qui peut dire ce qu'il veut, s'il met pas Benedetto, les deux, il les a flingués. Mitroglou, parce qu'il s'est marqué des buts, et Germain, il s'est marqué des buts. Mais on a dit, ah vous comprenez, j'aimerais bien que vous partiez, dépêchez-vous. Mais dans la situation où Marseille, personne veut acheter un joueur de Marseille aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la situation, c'est où on met Benedetto, où il y a personne. Et il y a personne. Il n'y a pas de neuf. Et on peut dire, on va les mettre. Donc c'est où il change son vis d'épaule. Il les relance et il les met dans la course. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le cas.
Drôle de soirée, donc, qui attend ces joueurs de l'OM face à une équipe, Bruno Constant, Manchester City. En ce moment, en championnat, on les sent moins flamboyants que d'habitude. D'ailleurs, ils sont pas aux avant-postes. Pas encore. Bien sûr, la première ligue vient de commencer. Mais on sait que là-bas, chaque point compte.
Oui, même si je suis pas encore trop inquiet pour City, parce que City, mais il faut regarder aussi les autres. Et si les autres avaient pas autant de difficultés que Manchester City, je parle de Chelsea, d'Arsenal, de Manchester United,
Everton
qui ont connu des difficultés, on pourrait être inquiet, mais c'est un peu une inquiétude généralisée.
Oui. Et surtout, et dans d'autres championnats, on en a parlé, ce poste tournoi final de Lisbonne qui a un peu tout changé pour beaucoup de clubs.
Et puis après, si on regarde le dernier match du week-end contre West Ham, effectivement, en première mi-temps, ils sont pas bons, mais en deuxième mi-temps, ils sont très très bons. Et le problème, ce qui leur manque aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, c'est quelque chose dans le dernier geste, c'est la dernière passe, c'est le dernier contrôle avant d'être face au but. Sterling, par exemple, ce week-end, il y a deux occasions énormes. Joao Cancelo a un ballon côté gauche, il rate son contrôle alors que Sterling est tout seul au centre. Donc c'est vraiment encore des petites choses. Et pour beaucoup, c'est fait aussi que City joue sans ses deux avancées depuis presque deux mois.
Bah oui.
À un moment donné, forcément, ça pèse. Mmh. Mais moi, je les ai trouvés plutôt bons en deuxième période à West Ham. Et puis, on parlait de Marseille, comment réussir face à City, c'est une montagne. Mais West Ham a réussi contre Manchester City. C'est pas un monstre du football anglais, West Ham. C'est plutôt une équipe de deuxième partie de tableau.
Ils ont joué.
Mais ils étaient extrêmement. Ils ont joué, mais c'était extrêmement bien organisé derrière. Ils jouaient un bloc bas. Ils jouaient à 5
et 10 joueurs à West Ham qui ne sont pas à Marseille. Faut pas surestimer.
C'est pas qu'une question de qualité, c'est une question aussi
de
croire en sa chance,
d'amener
de la vitesse, de la puissance, etc. Antonio, par exemple, qui a joué en pointe.
De la puissance et de la vitesse, c'est de la qualité, Bruno. Tu me dis, c'est pas qu'une question de qualité. Bah, la qualité, la vitesse et la puissance, c'est de la qualité.
À West Ham, il n'y a pas des joueurs faramineux.
Non, il n'y a pas des joueurs faramineux, mais est-ce qu'ils sont moins bons que ceux de Marseille? Est-ce qu'ils sont moins bons que ceux de Marseille?
On les connaissait pas.
Tu n'as pas à West Ham, c'est pas des joueurs qui n'existent pas à Marseille.
C'est pas des joueurs qui ont coûté plus de 15 millions d'euros, ces deux joueurs-là.
Mais c'est pas parce qu'un joueur est connu.
Mais c'est des joueurs qui amènent de l'intensité, de la vitesse.
Oui, mais ils sont plus forts que ceux de Marseille. Plus forts que ceux de Marseille.
Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour Marseille, en tout cas, de tomber sur Manchester City? Maintenant, il y aura évidemment un match retour dans quelques semaines, mais est-ce que là c'est un meilleur moment?
Marseille, c'est mieux de jouer maintenant, évidemment.
Ils ont zéro marge de manœuvre. Ils ont perdu l'Olympiakos.
C'est pour ça que
les joueurs
c'est par rapport à City.
C'est forcément mieux de les jouer maintenant que s'ils étaient dans une série de 5, 6, 7 victoires d'affilée. C'est évident. Il y a des failles dans cette équipe de City.
La Ligue des Champions, cette saison, elle tient sur 7 semaines. Les jouer maintenant, les jouer dans 3 semaines, c'est pareil. Trop rapproché pour
City.
Dire. Oui, mais je suis d'accord avec toi.
On parle pas de Manchester City qui caracole en tête de la Première Ligue, qui est un monstre absolu.
Qui jouerait le titre.
Il y a des failles défensives. Il y a Aymeric Laporte qui a pas joué depuis le 3 octobre, qui va peut-être revenir dans l'équipe. On sait même pas s'il est sûr de jouer.
C'est toujours le point faible un peu de Manchester City.
Mais toujours la défense. Donc il y a des failles.
Parce qu'ils ont souvent des défenseurs.
Il y a des failles exploitées. Un match. Moi, j'hallucine toujours qu'en France, on débute un match de Ligue des Champions, même contre un ogre, sans y croire. Moi, quand une Porto débute son match, et c'est pas un grand Porto qu'on voit jouer depuis quelques années, ils vont jouer à City, ils jouent leur match. Ils nous ont causé des soucis parce qu'il y a des transitions rapides, parce que quand on attaque à 3, à 4, à 5.
Bruno parle d'un état d'esprit, puisque j'ai joué en Angleterre, en Écosse, je l'ai déjà dit, quand on va au Celtic ou Rangers, on est Hibernian ou Livingston, on sait qu'on va en prendre 4 ou 5, mais par contre, on y va pour jouer, hein. Mais on sait, et donc on vous dit pas avant, mais on pense qu'on va perdre, parce que c'est vrai que l'état d'esprit, on se dit ah ben nous ils sont beaucoup meilleurs. On a l'exemple de Lyon qui allait à City, mais c'est obligé qu'ils vont, mais vous vous rendez compte, ils vont en prendre, et puis à l'arrivée Lyon avait gagné. Donc c'est juste un état d'esprit qu'il faut qu'on change dès le départ, mais aujourd'hui on ne le change pas, malheureusement.
Bon, alors Christophe, vous serez témoin de savoir si l'esprit est plane ou pas sur le stade Vélodrome.
Ouais, je vous avoue que j'appréhende un petit peu, hein, parce que vivre l'expérience d'un match de Ligue des Champions dans un stade complètement vide, c'est pas forcément réjouissant. Ça, j'espère que ce sera pas trop triste. Mais bon.
Ouais. On vous retrouve donc tout à l'heure sur RFI, et ça sera avec Thomas de Saint-Léger et Martin Guèze, ainsi que Naïm Moniol, à partir de 20h57, heure de Paris, 19h57 en temps universel. Merci beaucoup Christophe. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Real Madrid conquérant après leur victoire dans le Classico où ils étaient très attendus. Les Merengues joueront leur deuxième soirée de Ligue des Champions avec eux aussi l'obligation de l'emporter, on va dire, pour marquer en tout cas leur premier point dans la compétition. Ils iront jouer à Mönchengladbach en Allemagne, une équipe qui à Milan a tenu tête à l'Inter. Alors dans les rangs du Real, peut-être qu'un retour va être observé à la loupe, c'est celui de l'international belge Eden Hazard. Zinedine Zidane s'en réjouit avec prudence.
Après une longue période de repos, Eden Hazard était heureux de revenir et de pouvoir jouer. Cet arrêt lui a permis de se soigner, de revenir avec nous et de jouer. C'est une bonne chose. Il est bien physiquement, nous savons quel genre de joueur il est. Et puis il y a le lien qu'il a avec Karim. Nous devons en profiter.
Est-ce que c'est une bonne chose ce soir pour les Merengues, Naïm Moniol, de retrouver ce joueur qui a si peu joué avec eux, mais surtout si peu joué en Ligue des Champions?
Si peu joué tout court.
6 matchs, 0 but, 0 passe décisive.
Oui, si peu joué tout court. C'est toujours une bonne nouvelle de retrouver Eden Hazard, parce qu'il est pourri de talent. Maintenant, il faut que ce soit le bon Eden Hazard. Si c'est le Eden Hazard, alors qui n'est pas à 100% parce qu'il a, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il va lui falloir laisser un peu de temps. Si c'est le Eden Hazard qui ne court pas parce qu'il a 4 ou 5 kilos de trop, ça ne sert à rien. Mais le bon Eden Hazard, celui qu'on avait notamment côtoyé sur la dernière saison à Chelsea. Oui, c'est évidemment bon, parce qu'on a vu Vinicius, on a vu Rodrigo sur les derniers matchs, c'est des bons joueurs, ils ont plein de qualités, mais ils sont pas encore affinés, c'est pas encore aguerri, c'est pas encore du niveau d'Eden Hazard. Maintenant, ça dépend le niveau d'Eden Hazard, mais c'est évidemment une très bonne chose. Quand on aime le foot, on veut voir Eden Hazard.
Bruno Constant, vous qui l'avez tellement vu et suivi du côté de Chelsea, est-ce qu'on va retrouver un Eden Hazard celui de Chelsea, justement? Est-ce qu'on peut le retrouver, ou est-ce que vous pensez que finalement le Real, en tout cas depuis un an, c'est pas le bon choix?
Mais il faudrait savoir dans quel état physique
il est.
Parce
que beaucoup de gens s'interrogent, évidemment.
Non, mais il faudrait savoir dans quel état physique il est. C'est la condition de ces matchs de qualité. C'était le cas à Chelsea, où il y a eu aussi des passages où il était en méforme, en surpoids, ou peut-être ce degré de motivation qui manquait pour être bien préparé en attaquant une saison.
Quand on va au Real, on ne manque pas de motivation.
Ben non, mais moi je pensais que quand on allait au Real, on revenait de vacances 15 jours avant, qu'on se préparait pour jouer dans le plus grand club du monde. Et c'est pas ce qu'il a fait la première année. Donc il a encore ce degré où c'est quelqu'un de très joueur et pas assez encore compétitif. C'est quelque chose qu'on lui a reproché, quelque chose qu'il reconnaît lui-même. Maintenant, je suis pas sûr que le Real d'aujourd'hui a besoin d'Eden Hazard. Pas pour le moment. Ils ont montré contre le Barça sans lui qu'il pouvait s'imposer au Camp Nou et qu'il pouvait être performant. Ils ont l'équipe, ils ont l'expérience.
Ils ont plus besoin de Ramos que d'Hazard, c'est ça?
Ils ont besoin de Ramos, ils ont besoin de leur milieu de terrain. Pour moi, c'est le milieu de terrain qui est essentiel au Real. Et s'ils ont ce milieu de terrain, s'ils ont un Benzema au coup d'envoi qui est excellent comme depuis le début de la saison, moi, je vois pas vraiment de surprise. Mönchengladbach, c'est une bonne équipe.
Vous m'avez pas répondu si on retrouvera Hazard.
Parce que
si vous imaginez,
c'est difficile à savoir avec lui parce qu'on sait pas exactement ce qui se passe. Si c'est de la motivation, des pépins physiques, est-ce qu'il a précipité son retour parce qu'il a une pression de jouer au Real Madrid? C'est aussi ce qui se dit. Il y a plein d'éléments. Moi, je pense qu'il faut pas l'attendre maintenant. Il faut le laisser revenir progressivement et surtout qu'il puisse faire une saison complète avec le Real. C'est important.
Marc, ce Real Madrid, alors, durant le week-end, on parlait de Zidane qui avait en gros deux épées de Damoclès autour de la tête, une au moment du Classico, et maintenant en Ligue des Champions. Est-ce que ce soir, en Allemagne, face à Mönchengladbach, qui s'en sort pas trop mal en championnat, hein, ils sont sixième, mais c'est vrai que c'est pas le Bayern de Munich. Mais
zéro victoire à domicile, Mönchengladbach, cette année.
Hein. Oui, mais ils gagnent à l'extérieur, c'est ça qui est... Donc là,
c'est surtout une équipe qu'on a vue lors de ce premier match qui est très difficile à manœuvrer, très difficile à jouer.
Bah, ils ont tenu tête à l'Inter Milan.
Et à l'Inter, et ça passe pas loin si Lukaku fait pas un doublé dans les dernières secondes. Ouais. Cette équipe-là, elle est rude. Après, Zidane, il y a un an, à la même période, on se posait les mêmes questions autour de son cas. Il est toujours capable de sortir du bois, de remettre en selle certains joueurs. Je pense qu'il y a une erreur énormissime sur le match aller où, effectivement, la plupart des joueurs de Shakhtar, il y en a 9 ou 10 qui sont le Covid. Donc, on se dit, bon, mais c'est guinguette, il faut qu'ils arrêtent de jouer dans ce stade d'entraînement. On met pas, Ramos, il était pas là, mais on met pas Benzema, Varane qui se pensait, Kroos qui jouait pas. On se dit, bon, Varane, il rentre, mais je suis en claquette, tongue, tout va bien, c'est la mode chaussette, tout va bien. Bon, ils sont passés à travers, mais c'est assez logique. Alors on se réveille parce que Vinicius rentre.
C'est inquiétant quand même, Marc, d'avoir un club comme le Real, qui finalement n'a pas de réserve. Parce qu'au moment où il faut tourner 3-4 cadres, il n'y a personne derrière.
Ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart du temps, sur ce genre de machine, quand c'est une machine, c'est le Real, c'est performant à 100%, 100%. Et puis d'un coup, tu as une bouffée d'oxygène, tu dis, bon, chaque tour, ils ont 9 absents, ils vont faire jouer des gamins, bon, on est chez nous, quand l'entraînement, on s'amuse, c'est rigolo, on va un peu décompresser. Et c'est là où tu te dis, je peux me permettre. Ben non, tu peux pas te permettre. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, tu peux pas. Parce que s'il n'y a pas le Covid, s'ils sont dans leur stade, mais c'est peut-être 10 ou 12 de l'autre côté. Parce que là, tu avais des gamins, alors tu avais des joueurs, ok, mais il te manquait la plupart de l'équipe. C'était jamais arrivé dans l'histoire que, et à l'arrivée, regarde, il y a 3 voire 4, c'est pareil, tu vois. Et Varane était complètement perdu. On a dit, c'est Ramos. Je veux bien que ce soit Ramos. À un moment donné, Varane, faut que ce soit en question.
Mais Varane, et sur la fin, c'est pas les jeunes en face. Varane, il était perdu face à Manchester City. Oui, il a fait l'erreur sur erreur.
Je suis pas sûr
que ça soit par rapport à l'adversaire, moi. J'ai l'impression que les réserves du Real sont pas si extensibles que ça.
Ce week-end, ils font pas un bon match ce week-end. Ils font le match qu'il faut. Ils gagnent 3-1.
Avec le retour des cadres.
Ouais.
Voilà, il y a un 11 au Real, mais derrière, c'est un peu juste, je trouve.
En tout cas, c'était.
Match important, en tout cas, pour Zinedine Zidane et ses hommes, donc, et dans le Megum Group, ce soir, le Shakhtar Donetsk, qui avait donc créé la sensation en allant gagner au Real la semaine dernière, il recevra l'Inter Milan. Et puis, dans le groupe de l'OM, c'est Porto Olympiakos, et ça sera au Stade des Dragons. Il y a un match prometteur, on voulait s'y arrêter quelques instants. Ça sera à Bergame, en Italie, entre l'Atalanta et l'Ajax d'Amsterdam.
4-0. Doppietta di Adebor, sempre lui della squadra di Giampiero Gasperini.
Et oui, deux équipes qui vont à 100 à l'heure, nous dit Laurent Salaire. Nos deux équipes joueuses et qui pourraient nous offrir un beau spectacle. Gian Piero Gasperini s'inspire de l'école de l'Ajax, de sa philosophie de jeu, mais en même temps, il voit bien les différences entre les deux équipes.
L'Ajax attaque avec beaucoup de joueurs et nous devrons être solides pour pouvoir les contrer. Ce sera une partie sans nul doute difficile. D'un point de vue tactique, ce sont deux équipes complètement différentes. L'Ajax est un laboratoire qui expérimente en championnat plein de schémas différents et très novateurs. Pour moi, il reste un point de référence car il propose des idées de jeu qui changent et qui me plaisent beaucoup. En somme, l'Ajax a toujours été un modèle pour moi, mais tactiquement, nous sommes vraiment organisés différemment.
Bruno Constant, est-ce que ces deux équipes sont si différentes? Parce que c'est vrai que toutes les deux, elles offrent beaucoup de spectacles. Alors bon, on a vu que l'Ajax Amsterdam est un peu plus fragile hein, qu'il y a deux ans, moins fringant lui aussi. L'Atalanta, c'est pareil, il y a un peu de mal en championnat. Mais malgré tout, ce sont des équipes qu'on peut mettre dans la même catégorie.
Bah, c'est deux équipes extrêmement offensives et qui ne ferment absolument pas le jeu. Après, c'est pas du tout le même football offensif. Mmh. Il y a une équipe qui se projette énormément vers l'avant, qui est l'Atalanta, et une autre qui a dans ses gènes de jeu, de passes courtes, de triangles, voilà, c'est de schéma, c'est dans leur gène, dans leur ADN, mais après, c'est très excitant comme match parce que, voilà, c'est deux équipes qui ferment pas le jeu. Malheureusement, on en voit un peu de moins en moins. On voit plus d'équipes avec des équilibres comme Liverpool maintenant, comme le Real, qui sont un peu plus pragmatiques. Mais voilà, après, l'Atalanta est quand même, moi je trouve, depuis le début de saison, ils sont quand même un peu en difficulté. Ils marquent toujours autant de buts. Ils en prennent beaucoup. Et quand ils en prennent, ils lâchent souvent le match, quoi. Et je pense encore, on va se répéter à force de se répéter, mais que cette histoire de Covid, de Final Eight et de manque de préparation physique, athlétique, notamment pour une équipe comme l'Atalanta qui court énormément, je pense que ça leur est préjudiciable.
C'est un peu le souci des équipes comme l'Atalanta, c'est que finalement ils tournent peu. C'est souvent des équipes qui tournent avec 12-13 joueurs, les mêmes. Et quand physiquement ils sont entamés, vous n'avez pas de solution de rechange. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts en fait. C'est-à-dire qu'ils comme c'est les équipes qui acceptent le déséquilibre, à partir du moment où ils sont en difficulté, ils prennent beaucoup de buts. Moi, je vois quand même plus de jeux du côté de l'Atalanta que du côté de l'Ajax, qui a fait un score babyfoot ce week-end à Venlo. Mais ils sont quand même
11-0.
13.
Ouais. 13
avec un quintuplé.
Je suis
d'un jeune. Lassina Traoré,
dont on a parlé dans Radio Foot.
Mais c'est une équipe qui est quand même moins forte, vous l'avez dit, qui a perdu des joueurs, qui essaye de se renouveler avec des jeunes petit à petit. On dit c'est un laboratoire, mais la formule, elle n'est pas encore aguerrie. Donc j'y vois un léger avantage pour l'Atalanta. C'est un match spectaculaire, mais je pense que le souci, on va y revenir, c'est cette formule de Ligue des Champions, 6 matchs en 8 semaines. Physiquement, ça va vous entamer, parce qu'en plus, il faut jouer championnat en même temps. C'est devenu trop difficile pour ces équipes-là.
Marc, oui. c'est vrai que ces deux équipes, malgré tout, même si elles jouent le déséquilibre, même si elles encaissent beaucoup, elles sont quand même allées loin en Ligue des Champions avec ce style. Et c'est ça qui nous avait aussi un peu épaté. La Talanta l'année dernière va jusqu'en quart de finale. Ouais. Et l'Ajax l'année d'avant.
Choupo-Moting.
jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça peut être une recette aussi.
La recette de l'Ajax, c'est une méthodologie de quand on grandit, on évolue chez les jeunes, chez les grands, les seniors, on monte et puis on évolue. L'Atalanta, c'est Gasperini qui a décidé il y a 3 ans de dire voilà, maintenant on va mettre un système de jeu, on va jouer à 3 derrière, je vais en mettre 5 au milieu et 2 devant. Et les 2 devant sont capables de marquer des buts à tout moment, que ce soit Muriel, Zapata, très puissants, qui sont capables de faire la différence. Alors quand vous jouez en 3-5-2, c'est très bien, mais il y a toujours 2 ou 3 joueurs au milieu de terrain qu'il faut venir compenser. Alors des fois c'est une fois c'est celui qui joue plus sur le côté, une fois c'est celui qui joue plus dans l'axe. Donc oui, c'est spectaculaire, on se régale, mais ça a ses limites quand d'un coup, physiquement, on n'est pas dans le processus classique où on a récupéré à telle période et on renchaîne direct. Les gars, ils ont enchaîné, eux, depuis le championnat d'Italie. Il fait quoi mi-juin, le championnat d'Italie avait repris, il me semble. Oui. Donc, ils ont enchaîné après les matchs. Enfin, bon, donc, eux n'ont pas eu de coupure. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas coupé. Il y a eu le Covid et ils ont repris. Donc, après, ça demande énormément. Mais c'est vrai que c'est des équipes, je préfère voir jouer l'Atalanta. Moi, pour moi, que l'Ajax, c'est propre, c'est un système de jeu à partir d'arrière, t'as Dij devant qui va, puis, mais chaque année, ils se font piller et le niveau baisse un peu.
De toute façon, quand même, parce que le niveau de la Serie A est quand même nettement meilleur depuis 2-3 ans. C'est vraiment redevenu un championnat
costaud. C'est vrai, ça commence.
Alors que les Pays-Bas,
c'est pas mal.
Vraiment, moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça joue, c'est beaucoup plus offensif, beaucoup plus ouvert. Et quand on voit les résultats des clubs italiens en Coupe d'Europe, on la Juve, c'était pas extraordinaire. Le Napoli, ils se font taper à chaque fois.
Moi, je trouve que ça s'équilibre un peu trop. Ça s'équilibre nettement en Italie depuis 2-3 ans.
Je trouve qu'on les voit beaucoup.
Commence à retrouver des équipes.
Ça va mieux. Pour moi, ça va beaucoup mieux.
Alors que l'Inter, l'Inter, ils font une saison magnifique la saison passée. En Europa League, ils se sont fait taper. Ils ont pris une leçon.
Séville.
En finale. Ouais, mais par Séville.
Ils ne sont pas sortis en 8e, ils sont sortis en finale quand même.
Séville, c'est pas un cadeau.
Non, ils en ont gagné 4 en 6 ans, un truc comme ça, mais c'est pas un cadeau.
C'est pas un cadeau du football européen.
C'est dur, la Bruno. Ils sont pas mal.
C'est l'Europa League. C'est pas la Ligue des Champions. Club français, on n'en fait pas gagner en finale d'Europa League, nous.
Ah non, voilà. Marseille, la dernière.
Oui, c'est
2018. À Lyon. À Gerland.
Et Marc, il était.
Mais se méfier de l'Ajax, attention. L'Ajax était très bon à Anfield contre Liverpool.
Joli programme donc cette Ligue des Champions à suivre sur RFI donc ce soir. Allez, un crochet vers l'est du continent. On va au bout du continent européen, même du côté d'Istanbul. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night. Le PSG met le cap à l'Est pour se refaire une santé européenne. Demain soir, les hommes de Thomas Tuchel, qui avaient donc perdu leur premier match au Parc des Princes face à Manchester United, joueront contre les joueurs d'Istanbul Başakşehir, le club sacré champion l'an dernier en Turquie. Une rencontre qui se déroule dans un contexte très particulier, car le club de la capitale française se déplace pendant que le ton monte entre les deux capitales, entre Paris et Ankara. Le président Erdogan a été très véhément contre Emmanuel Macron. Le Quai d'Orsay a rappelé son ambassadeur au cours du week-end. Bref, bataille de mots, tension diplomatique et au milieu, un match de foot, un match de Ligue des Champions. Kevin Vessière, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste et vous tenez un site passionnant qui s'appelle Football Club Géopolitique. Je dis un site, mais c'est un tweet en fait, un tweet qu'on peut transformer presque en site par la longueur des discussions. Et j'aurais une première question autour de ce match. Les joueurs et le staff de Paris, du PSG, doivent-ils craindre quelque chose en arrivant ce soir du côté d'Istanbul ?
Non, je pense pas qu'ils ont quelque chose à craindre, parce qu'effectivement, le président déjà du club d'Istanbul, Başakşehir, a bien rassuré les joueurs et ainsi que le dirigeant Nasser parisien, en leur disant que c'était un club ami et qu'ils avaient rien à craindre durant ce match-là, surtout qu'en plus le match se jouera à huis clos, donc il y aura encore moins de risques au niveau de débordement dans le stade.
Est-ce qu'il y a des choses à craindre si, par exemple, le PSG gagne là-bas, à Istanbul, ou s'il perdait ?
Ça peut être. Après, moi je vois plus quelque chose autour de la réutilisation d'une éventuelle victoire de l'Istanbul Başakşehir s'il venait à gagner le PSG, parce que Erdogan, vu que c'est le club un peu d'Erdogan, Istanbul Başakşehir, eh bien, Erdogan en profitera, je pense, pour raviver encore un peu plus les tensions diplomatiques entre la Turquie et puis la France.
Justement, parlez-nous de ce club, parce que finalement, nous, on connaît plutôt Galatasaray ou Fenerbahçe ces dernières années, ceux qui participent à la Ligue des Champions régulièrement, et avec aussi toute la cohorte de joueurs français ou africains qu'ils ont accueillis. On connaissait un peu aussi Antalya Sport. Ce club, le Başakşehir, est un club qu'on surnomme aussi Erdogan Football Club.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un club à l'histoire récente, puisqu'il a été racheté par des proches du parti politique d'Erdogan, l'AKP, en 2014. Et depuis, ce club en fait a vraiment beaucoup de liens avec le pouvoir politique en place, que ce soit par la couleur de son maillot, c'est la couleur orange, c'est comme le parti politique de l'AKP. Erdogan a inauguré lui-même le stade en 2014 en enfilant les crampons et en mettant même un triplé. Et ensuite, eh bien le président dont on parlait tout à l'heure, Yüksel Yumuşda, est le mari de la nièce d'Erdogan. Donc on voit que les liens sont très proches entre Erdogan et l'Istanbul Başakşehir. Et l'idée, c'est vraiment de faire le grand club de Turquie et concurrencer Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş.
Et le sponsor officiel Medipol est le groupe hospitalier mené par le médecin personnel d'Erdogan, Koca, Taxerine Koca, qui est aujourd'hui le ministre de la Santé. Donc, puis il y a des entreprises de construction au niveau du stade qui sont des entreprises proches du gouvernement. Bon, après, ça serait malhonnête de reprocher à Erdogan de servir du foot pour arriver à des fins politiques, parce que je pense qu'ils le font tous dans tous les pays. De manière plus ou moins insidieuse, ils le font plus ou moins tous. Après, c'est vrai qu'en Turquie, les positions, mais là on va sortir du truc, les positions politiques sur pas mal de dossiers géopolitiques d'Erdogan mettent un coup de projecteur un peu malsain sur ce club. C'est ça aussi, c'est plus les positions sur l'échiquier. Bah, disons que c'est plus les positions sur l'échiquier géopolitique d'Erdogan qui pose souci. C'est pas tant le fait qu'il soit investi dans un club de foot, parce que je pense que si vous prenez dans tous les pays, à toutes les époques,
tous les chefs d'État ont été proches.
Ah, le contexte du moment, oui, mais après le contexte du moment est imbriqué dans un contexte un peu plus large, et voilà, c'est une succession d'épisodes entre Erdogan et la communauté internationale.
Oui, je parle bien. Kevin.
Oui, et puis l'Istanbul Başakşehir, on va dire que c'est un outil dans la stratégie d'Erdogan pour faire du football un outil de légitimation de son pouvoir. On l'a vu notamment avec les nombreux liens qu'il a avec la Fédération de football de Turquie, entre l'AKP et lui, et aussi le fait qu'il ait construit de nombreux stades, notamment pour faire de la Turquie un terrain propice à l'organisation d'un championnat d'Europe des Nations en 2024. Mais bon, finalement, ils n'ont pas eu l'organisation.
Les liens entre le PSG et le Qatar, entre le Qatar et la Turquie et tout, peuvent-ils aussi atténuer finalement le fait que ce soit le PSG qui aille à Istanbul ?
C'est vrai que ça peut atténuer, parce qu'après, comme l'a dit le président du club, il a dit le PSG n'a rien à craindre, surtout que le président Nasser est un ami. Donc il est vrai que de telles relations pourront encore plus atténuer les relations tendues autour du match. Je pense pas qu'il y aura forcément de débordement à venir.
La sécurité de ces matchs, finalement, elle est assurée par l'UEFA et par le club aussi, Marc.
On va préciser, puisque quand on part, alors, si je vous parle de quelque chose d'il y a plus de 20 ans, quand on partait jouer en Europe, ou quand on part en Ligue 1, où on voyage déjà, on voyage pas, on prend pas l'aéroport classique, on a un avion perso, on voit personne, on croise personne, il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire que le bus est sur le tarmac. Vous descendez de l'avion, vous remontez dans le bus, vous arrivez dans l'hôtel, il est cloîtré, il est fermé pour vous, vous avez un étage que pour vous, vous mangez dans un salon, vous ne voyez pas les gens, vous ne voyez personne. Le seul moment où vous pouvez croiser des gens, c'est peut-être quand vous allez au café. Et certains coachs interdisaient qu'on aille au café du bar.
Ou entre l'hôtel et le stade aussi, avant le match.
Ouais, mais l'hôtel et le stade, là, tu as les motards devant, derrière. Tu te fais canarder. Mais oui, mais ça, c'est pas grave.
On a vu les bus se faire caillasser.
Oui, mais ça c'est classique.
Enfin, non, mais...
Enfin, si t'as peur de ça, il faut pas jouer au foot. Parce que je me suis caillassé au parc, je me suis caillassé à Bordeaux, à Lyon. Tu sais que tu te mets, tu as deux fauteuils dans le bus, tu te mets le fauteuil central et tu tires le rideau et les pierres elles tombent, tu les récupères.
C'est un truc que tu
l'as vécu. Donc c'est pas gênant.
On n'est pas dans le championnat turc non plus. C'est l'UEFA.
Oui, c'est ça.
Club-là et ses supporters auraient tort de mêler le politique et le football, parce qu'à l'UEFA, tu payes très très cher s'il y a des débordements autour de la sécurité des joueurs ou d'un bus.
Kevin, une dernière question. On imagine, justement, Marc y fait allusion, mais que peut-être, comme à Marseille, là où on sait que les supporters iront accompagner les joueurs jusqu'au stade, là, ça se fera peut-être aussi. C'est là où on les verra, les supporters.
Ça pourra se faire aussi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Istanbul Başakşehir, il y a quand même beaucoup moins d'engouement populaire que des clubs comme Galatasaray, Beşiktaş et Fenerbahçe. Dans un contexte sanitaire normal, on va dire, il y a 3000 supporters en général au stade au stade Fatih Terim de l'Istanbul Başakşehir, sachant qu'il peut en avoir 17 000. Alors que d'habitude, c'est plus autour des 30 000 supporters à chaque match en Turquie qu'il peut y avoir. Donc c'est vrai que l'engouement populaire autour du club met un peu de temps à se construire malgré son titre de champion de Turquie.
Ouais. Merci beaucoup, Kevin Vessière, d'avoir été en direct avec nous. Et je revois nos auditeurs à ce passionnant compte Twitter que vous avez qui s'appelle Football Club Géopolitique. Merci et à bientôt. Continuez.
Merci.
Merci, à bientôt. Dans ce délicat contexte diplomatique autour de cet attentat islamiste qui avait coûté la vie à un professeur d'histoire-géographie la semaine dernière en France, Paul Pogba, Bruno Constant, je me tourne vers vous parce que lui aussi a été victime. Mais alors là, c'était ni d'une rumeur ni des réseaux sociaux. C'était d'un quotidien britannique qui a assuré dans ses pages au cours du week-end que Paul Pogba ne jouerait plus pour les Bleus pour protester contre le discours d'Emmanuel Macron sur l'islam. Ce que Paul Pogba a finalement démenti.
Ouais, c'est un article qui est issu du Sun, hein, qui relayait en fait des informations visiblement de médias et de sources du Moyen-Orient, qui laissait entendre que Paul Pogba allait quitter l'équipe de France en colère après le président Macron. Mais le Sun, faut resituer dans le contexte anglais, c'est un tabloïd. Certains diraient c'est une défossoir, une poubelle où on raconte un peu tout et n'importe quoi, mais sur n'importe quel sujet. Et c'est un peu leur fond de commerce, parce que certes, ils vont être attaqués, mais le tirage du Sun, comme du Mirror ou d'autres, est tellement important que ça leur coûte rien. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le journaliste qui a écrit cet article, donc qui n'a pas vérifié ses sources, c'est le même qui écrit l'article en disant que Pogba se plaint, qu'il va attaquer le Sun et qu'il n'est pas d'accord avec ce qui a été dit, etc. Donc voilà, eux, ils ont fait une information qui était une mauvaise information, ils vont faire une nouvelle information, ça va leur tenir deux jours, peut-être trois jours, peut-être quatre jours. C'est le Sun. Le Sun, c'est quand même le journal qui avait accusé les supporters de Liverpool lors du drame d'Hillsborough, ils avaient accusé les supporters de Liverpool d'avoir été à l'origine du drame, alors que l'enquête a montré que c'était davantage la police.
C'est un
quotidien qui est, par exemple, banni de Liverpool et d'Everton.
C'est compliqué pour un joueur de contester une fausse nouvelle, une rumeur, et de prendre position et de parler, parce que là ça traînait quelques heures quand même, cette histoire. On a vu que tout le monde s'emballait sur cette rumeur que Paul Pogba allait quitter les Bleus.
Disons qu'aujourd'hui il y a quand même, avec les réseaux sociaux, internet, plus d'outils qu'à l'époque de Marc, parce que
je confirme.
Quand aujourd'hui, tu peux communiquer via les réseaux sociaux, via ton club, via ton sponsor. Parfois, c'est un certain, on va pas citer les marques, mais il y a des équipementiers qui parlent à la place du joueur avec leur accord, les avocats et compagnie. Mais le souci de mémoire, est-ce que Paul Pogba n'avait pas, il y a quelques années, pris position dans un conflit, c'était pour qui c'était pas israélo-palestinien, il avait pas soutenu à un moment donné. Je crois qu'il avait fait des déclarations un peu dans ce sens-là, et je crois que c'est des images qui collent un peu à la peau des joueurs. Malheureusement, il y avait eu un truc comme ça avec Paul Pogba. Souvenir. Moi, j'ai souvenir de ça. Paul Pogba, il y a quelques années, avait, je sais plus ce qu'il avait dit, il avait soutenu, je sais plus qui exactement.
Généralement, le Sun s'appuie sur des déclarations qui ont été faites dans des journaux étrangers, et ils les traduisent à leur manière, et ça crée plus ou moins une contre-information. Mais il y avait d'autres cas. Sur Mesut Özil, qui lui, c'est encore autre chose, pas avec la presse, mais qui s'était affiché avec Erdogan, qui avait défendu les musulmans de Chine, qui étaient...
Les Ouïghours, il y avait un truc comme ça.
Ouais. Et lui, par contre, il y a eu des soucis par rapport à ça. Ouais.
En tout cas, on peut savoir que sur son compte Instagram, Paul Pogba a écrit des informations absolument infondées à 100% qui circulent à mon sujet. Je suis consterné, en colère, choqué, frustré. Et il devrait donc porter plainte contre les journaux. Est-ce que le mal est fait, Marc, ou c'est un épiphénomène?
Il y a certaines personnes qui pourront se servir de ce genre de choses. Après, aujourd'hui, c'est tellement ingérable. C'est-à-dire que quelqu'un va vous sortir quelque chose dans tous les domaines. Et même si on n'a pas envie de l'entendre, on risque de le croiser, on risque de le lire. Et c'est catastrophique, parce que là, ça a été récupéré par le journaux qui raconte pas les gens. Il dit, mais le Sun s'est trompé. Et puis si vous n'êtes pas fan de foot, ou peut-être que vous passez directement sur cette brève ouada, Pogba a dit ça, et puis c'est parti, et ça... Voilà, ça fait du grain à moudre sur n'importe quoi. Et ça, c'est le gros problème aujourd'hui des réseaux sociaux.
C'est même au-delà pour moi des réseaux sociaux, parce que c'est un problème sensible. Mais moi, j'ai travaillé 9 ans en Angleterre, et parfois, ma rédaction m'appelait pour me dire, tiens, le Sun sort cette information, est-ce que tu peux vérifier? Et c'était ça tous les jours, parce que le Sun invente des choses sans arrêt. C'est totalement invérifiable. Et c'est pour ça que de plus en plus de joueurs, de stars notamment, s'associaient plus ou moins avec le Sun, touchaient de l'argent avec une chronique arrangée pour ne pas avoir de faits divers sur leur vie privée ou ce qui pourrait se passer autour de leur carrière.
Eh bien, en tout cas, Paul Pogba le dit, il continuera à jouer avec les Bleus de Didier Deschamps. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis, et ne quittez pas l'antenne d'RFI, puisqu'à partir de 19h57 TU, vous avez rendez-vous avec la Ligue des Champions.